de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le coin diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques éléments à informer, entre autres. Aide humanitaire à la Corée du Nord a chuté en 2022. Chine et l'Afghanistan l'engagent à renforcer leur collaboration et à lutter contre le terrorisme. Indonésie condamne l'incinération du Coran en Suède. Kuwait a également critiqué l'incinération du Coran en Suède. Le gouvernement du Burkina Faso a demandé aux troupes françaises de partir. Le gouvernement continue de maintenir la reprise de l'économie nationale. Le ministre indonésien du commerce est optimiste sur le fait que les exportations de l'Indonésie vers l'Arabie Saoudite continueront d'augmenter. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'aide humanitaire de la communauté internationale à la Corée du Nord a chuté de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, publiées dimanche. Selon l'agence de presse Yonhap, la baisse est survenue au milieu de fermetures de frontières qui ont été en place assez longtemps pour empêcher la propagation de COVID-19. Un traçage financier par l'Agence des Nations Unies a révélé que l'aide à la Corée du Nord des organisations internationales et d'autres agences en 2022 s'élevait à environ 2,3 millions de dollars, une forte baisse par rapport aux 14 millions de dollars de l'année précédente. Les données de l'OCHA ont également montré que plusieurs pays, dont le Canada, la Finlande, la France et l'Allemagne, avaient offert une assistance à la Corée du Nord en 2021, mais n'avaient pas réussi à fournir en 2022. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a eu samedi 21 janvier une conversation téléphonique avec Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires étrangères par intérim du gouvernement provisoire d'Afghanistan. Au cours de la conversation, les deux parties ont promis de renforcer mutuellement leur coopération et de lutter contre le terrorisme. Qin Gang a déclaré que la Chine accordait la priorité à la sécurité du personnel et des institutions chinoises en Afghanistan avant la fête du printemps. Il espère également que la partie afghane prendra des mesures solides pour assurer leur sécurité. Pendant ce temps, Muttaqi a transmis ses vœux du Nouvel An chinois au peuple chinois, tout en assurant que l'Afghanistan interdirait à toute puissance qui voudrait utiliser son territoire pour diverses activités qui sabote l'amitié entre l'Afghanistan et la Chine ou l'interfère avec les intérêts de la Chine. L'Indonésie condamne également fermement l'incendie du Coran par un extrémiste de droit suédo-danois devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, en Suède, samedi 21 janvier. C'est ce qu'a déclaré le ministère indonésien des Affaires étrangères via son compte officiel sur Twitter dimanche. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'action était un blasphème contre le livre saint et blessait et ternissait la tolérance religieuse. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également souligné que la liberté d'opinion doit être exercée de manière responsable. L'incinération du Coran par un extrémiste de droite suédo-danois à Stockholm, en Suède, a également attiré les critiques du gouvernement koweïtien samedi 21 janvier. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, dans un communiqué cité par l'agence de presse koweïtienne, Kuna, a déclaré que l'incinération blesse les sentiments des musulmans du monde entier ainsi qu'une grave provocation. Il a exhorté la communauté internationale à assumer la responsabilité en arrêtant ces actes inacceptables et en condamnant toutes les formes de haine et d'extrémisme ainsi qu'en traduisant les auteurs en justice. Le gouvernement militaire de Burkina Faso a demandé aux troupes françaises stationnées dans le pays de partir. La télévision nationale de la nation ouest africaine a rapporté samedi, cité par Reuters, un porte-parole du gouvernement burkinabé n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, tandis qu'un porte-parole du gouvernement français n'a pas pu être joint. Une source proche du gouvernement militaire du Burkina Faso a confirmé la nouvelle des demandes de départ des troupes françaises du pays, mais n'a donné aucun détail. La chaîne de télévision RTB, citant l'agence de presse, a rapporté que le gouvernement militaire avait suspendu le 18 janvier un accord militaire de 2018 qui autorisait la présence de troupes françaises au Burkina Faso. Cette décision marque une nouvelle fracture dans les relations de la France avec son ancienne colonie depuis un coup d'État militaire en septembre 2022. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que le gouvernement continuerait de maintenir la tendance à la reprise économique nationale face au risque de récession mondiale. Le gouvernement continue de maintenir les facteurs qui soutiennent l'économie nationale, dont la consommation. C'est ce qu'a déclaré la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, lors d'un webinaire économique national surveillé à Jakarta dimanche. Pour maintenir la consommation publique, le gouvernement a alloué 104 000 milliards de roupies au programme de sécurité alimentaire afin d'éviter que les prix alimentaires ne connaissent une inflation trop élevée. Sri Mulyani espère que diverses recherches pourront être menées tant par l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation BRIN que par d'autres institutions de recherche pour augmenter la productivité alimentaire, tant au niveau de l'ensemencement, de la fertilisation que de l'irrigation. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, est optimiste sur le fait que les produits d'exportation indonésiens de qualité continueront d'augmenter sur le marché saoudien. Cet optimisme a été transmis par le ministre du Commerce, Zulkifli, lors d'un dîner-rencontre avec le Saudi Indonesia Business Council et Saudi Businessman à la résidence de l'actionnaire d'Al-Bilad Bank, Sheikh Ibrahim Asubahi, Jeddah, en Arabie Saoudite, samedi 21 janvier, hors local. Dans sa déclaration écrite de dimanche, Le ministre Zulkifli Hasan a déclaré que la clé de l'augmentation des exportations indonésiennes vers l'Arabie Saoudite était la communication. Zulkifli a déclaré que l'Indonésie préparait les acteurs commerciaux de l'exportation à pouvoir répondre à la demande du marché saoudien en prêtant attention aux normes, à la qualité, à la quantité, au capital, à la durabilité et aux compétences. Bon, cher Joëtar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Cerita bonsoir, voici la quête diplomatique et en pour le titre des étudiants japonais présentent les produits indonésiens du batik au café. Au total, 19 étudiants de la faculté de commerce et d'administration de l'université Yamanashi Gakuin, YJU, ont présenté les produits indonésiens à la société japonaise allant du batik au café indonésien. L'un des étudiants, Sudo Shinya à Tokyo, a déclaré jeudi qu'il était heureux de connaître et d'introduire les épices indonésiennes qu'il a ensuite transformées en cuisine japonaise. D'autres étudiants et lui ont essayé de faire de la restauration rapide japonaise comme du riz frit ebi au gingembre et de la marayaki en utilisant des épices d'Indonésie. Sur les 20 produits alimentaires qu'ils fabriquent, ils étaient épuisés. Pendant ce temps, Suzuki Hitoa a présenté divers types de café indonésien au peuple japonais. Selon lui, le café indonésien est très bon. L'arôme et le goût distinct sont des caractéristiques très appréciées par les Japonais. Outre la vente, il a également mis en place une sorte d'atelier de café indonésien afin que les Japonais se familiarisent davantage avec le café indonésien. Les participants au cours Introduction au séminaire en Edo avec le thème indonésien et 7 participants de divers campus indonésiens qui sont membres du programme des 100 jeunes étudiants ont présenté leurs efforts pour présenter les produits indonésiens au public japonais à l'angle du batik, l'assaisonnement instantané, de riz frais, de collation et de café. Ils vendent ces produits au public japonais dans un festival à YJU et aussi dans des centres commerciaux à l'extérieur du campus. Chaque groupe était accompagné d'étudiants d'Indonésie. À cette occasion, Higashi Hidetada, professeur à l'université Yamanashi Gakuin, a expliqué que cette activité était une collaboration avec des étudiants indonésiens qui ont participé au YZU Short Program. De son côté, l'ambassadeur adjoint John Cahyanto a apprécié les efforts de YZU pour encourager ses étudiants à découvrir l'Indonésie. Il a ajouté que 2023 serait une année importante pour l'Indonésie et le Japon, car les deux pays célébreraient 65 ans de relations bilatérales. Pour célébrer, a-t-il poursuivi, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo organisera également la journée de l'amitié Indonésie-Japon 2023 dans un certain nombre de villes du Japon. C'est Jurita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec 23 janvier 1942, proclamation de l'indépendance de Gorontalo. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, Gorontalo a gagné son indépendance 3 ans avant que la proclamation d'indépendance de la République d'Indonésie ne soit lue à Jakarta. 17 août 1945. Le 23 janvier 1942, le combattant indépendantiste de Gorontalo, Nani Wahtabone, a lu la proclamation d'indépendance de la nation indonésienne à Gorontalo, Sulawesi du Nord. À cette époque, les habitants de Gorontalo étaient déjà libres de faire flotter le drapeau rouge et blanc après avoir obtenu leur indépendance des Pays-Bas avec tous les jeunes leaders de Gorontalo. Mais Mansi, Gorontalo reste déterminé à s'unir à l'État unitaire de la République d'Indonésie et ne choisit pas d'établir son propre État. Nous continuons avec l'événement du 23 janvier 1947, naissance de Megawati Sukarnoputri. D'hier par matin, Megawati Satyawati Sukarnoputri, ou mieux connue sous le nom de Megawati Sukarnoputri, est née à Yogyakarta le 23 janvier 1947. Megawati a été la première femme présidente indonésienne et fille du premier président indonésien Sukarno. Megawati est devenue la cinquième présidente de l'Indonésie à partir du 23 juillet 2001 au 20 octobre 2004. En plus d'être président, Megawati est également le président du Parti démocratique indonésien de lutte, PDI Perjuangan, PDIP. Chers amis, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec 23 janvier 1950, coup d'État du 23 janvier. Le 23 janvier 1950, le groupe de milices des forces armées Ratu Adil Apra, sous la direction de l'ancien capitaine des forces coloniales néerlandaises CNIL, Raymond Westerling, qui est également l'ancien commandant du dépôt spécial Troopen, force spéciale CNIL, est entré dans la ville de Bandung et a tué toutes les personnes en uniforme de l'armée nationale indonésienne TNI qu'ils ont rencontrées. Les actions de cette foule avaient été planifiées plusieurs mois plus tôt par Westerling et étaient même connues des hauts dirigeants de l'armée néerlandaise. Les victimes du côté indonésien ont atteint 94 soldats, tandis que du côté de Westerling, il n'y a eux aucun mort. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Katakanlah saja
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
C'est Zerita, bonsoir. Pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est 20 millions de MPME ont passé au numérique. Le personnel spécial du ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME, Riza Damanik, a déclaré que plus de 20 millions de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, sont entrées dans l'écosystème numérique depuis la pandémie de COVID-19 en 2020. Riza Damanik, lors du webinaire économique national à Jakarta dimanche dernier, 22 janvier, a déclaré qu'avant la pandémie, seuls 8 à 9 millions de MPME étaient entrés dans l'écosystème numérique et les plateformes numériques. Selon Riza Damanik, le ministère des coopératives et des PME cible à ce qu'en 2024, jusqu'à 30 millions de MPME soient connectés à un écosystème numérique susceptible de faciliter l'accès des MPME au financement et à un marché plus large. Pour cette raison, en 2023, le ministère des coopératives et des PME se concentrera sur le développement des MPME dans le secteur rail, en particulier le secteur alimentaire qui continuera de croître même au milieu de la pandémie. Reliant les MPME aux grandes entreprises et encourageant les MPME comme secteurs régionaux de premier plan. Auparavant, le président Joko Widodo espère également que 40% des dépenses total du gouvernement, soit environ 500 millions de rupiah, pourrait être utilisé pour absorber les produits des MPME et des coopératives. En outre, 30% de l'espace des infrastructures publiques comme les aéroports, les gares et les gares routières doivent également être utilisés comme lieu de vente des produits des MPME. Riza Damanik a souligné que le gouvernement continuera également à faciliter l'accès des MPME au financement par le biais de prêts aux entreprises populaires, KUR, y compris le programme de cluster qui vient d'être lancé. Selon lui, par rapport à avant la propagation de la pandémie de COVID-19, le gouvernement est désormais mieux préparé à distribuer de l'aide aux MPME car il a mieux collecté les données sur les MPME. Riza a ajouté qu'au début de la pandémie, l'un des défis rencontrés était la collecte de données pour les MPME et les coopératives. Sa partie ne dispose pas de données suffisantes concernant la répartition, la situation et l'ampleur des activités, mais actuellement les données s'améliorent et sont plus complètes. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Selalu ada batasnya jika hidup ini hanya sementara jadi ku tahan lagi buang waktu percuma. So, terima kasih Tuhan, terima kasih kawan, terimalah waktu yang akan ku lakukan adalah yang terbaik. Ya.
Yang
bagikan semua kebaikan untuk sesama.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, Banyu Towo vient de deux mots, à savoir Banyu et Towo. En javanais, Banyu signifie eau et Towo signifie douce. Littéralement, la plage de Banyu Towo signifie plage d'eau douce. Ce n'est pas parce que l'eau de mer n'est pas salée, mais parce qu'il y a une source qui vient du sol, donc l'eau autour de la source a un goût doux, car elle n'a pas encore été mélangée à l'eau de mer salée. La vue sur la plage de Banyu Towo sera encore plus charmante lorsque vous verrez une cascade sous forme d'eau douce tomber des rochers directement sur la plage. Étang de karstique qui s'étend le long de la côte, faisant de la plage de Banyu Towo une attraction touristique à visiter absolument. Lorsque nous nageons ou jouons dans l'eau à la plage de Banyu Towo Nogiri, vous ressentirez une sensation différente des autres plages. La plage de Banyu Towo est un lieu touristique situé dans le village de Gudang Narjo, le district de Paranggupito, la résidence de Wonogiri, Java Central. Le temps nécessaire du centre-ville de Wonogiri à la plage de Banyu Towo est d'environ 4 heures. La plage de Banyu Towo est équipée de plusieurs installations telles qu'une aire de stationnement pour véhicules, une salle de prière, des toilettes et un logement. Pour les touristes qui visiteront la plage de Banyu Towo, ils peuvent utiliser des véhicules privés ou des véhicules de location. Après avoir profité de la beauté de la plage de Banyu Towo et voulu profiter des spécialités culinaires de Wonogiri, il ne vous reste plus qu'à chercher des étals autour de la plage qui proposent des collations et des souvenirs typiques de Wonogiri comme le ritiwul, légumes au piment vert, poisson wader ou ras boka jacobsoni et autres. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
semu. Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Oh, bila benar bukan akulah orangnya, jangan kau tunda-tunda lagi, katakanlah sekarang. Oh, bila mungkin memang kau tak mungkin sayang, jangan gantungkan hati ini, jangan gantungkan hati ini. Bagai melangkahkan kaki,
yeah,
tanpa ada tujuan yang tak pasti,
yang tak pasti.
Kau buat diriku hidup dalam angan semu.
Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berwisata ke Lombok. Berwisata ke Lombok signifie voyager à Lombok. Vous allez écouter une conversation dont le titre est Ke Pantai Kuta sambil melihat sirkuit. Je répète, Ke Pantai Kuta sambil melihat sirkuit, signifie aller à la plage de Kuta en regardant le circuit. C'est une conversation entre Dev Singh, un touriste indien, et Laras, guide touristique à Lombok. Laras et Dev sont dans la voiture en route de Mataram à la plage de Kuta Mandalika. Laras informe Dev qu'ils vont à la plage de Kuta Mandalika en regardant le circuit international de Mandalika. Écoutons la conversation.
Kita akan ke Pantai Kuta sambil melihat sirkuit internasional Mandalika.
Oh, sirkuit Mandalika dekat Pantai Kuta.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, ke pantai kuta sambil melihat sirkuit. Ke pantai kuta sambil melihat sirkuit signifie aller à la plage de Kuta en regardant le circuit. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Kita. Kita signifie nous. Akan. Akan signifie allons. Ke pantai Kuta. Ke pantai Kuta signifie à la plage de Kuta. Sambil melihat signifie en regardant. Circuit International Mandalika. Circuit International Mandalika signifie le circuit international de Mandalika. Kita akan ke pantai Kuta sambil melihat Circuit International Mandalika. Kita akan ke pantai Kuta sambil melihat Circuit International Mandalika. Signifie nous allons à la plage de Kuta en regardant le circuit international de Mandalika. Dans une conversation, vous entendez la phrase Kita akan ke pantai Kuta sambil melihat circuit international Mandalika. Kita akan ke pantai Kuta sambil melihat circuit international Mandalika. Signifie nous allons à la plage de Kuta en regardant le circuit international de Mandalika. Dans cette phrase, il y a une conjonction sambil, tu répètes, sambil, pour relier deux activités réalisées en même temps. Dans cette phrase, la conjonction sambil, sambil est utilisée pour relier les activités kita akan ke pantai Kuta. Kita akan ke pantai Kuta signifie nous allons à la plage de Kuta et kita melihat circuit international Mandalika. Kita melihat circuit international Mandalika signifie nous regardons le circuit international de Mandalika. Pour relier deux activités qui sont réalisées en même temps, la conjonction sambil, je répète, sambil est placée entre les deux activités, par exemple, ke pantai Kuta. Ke pantai Kuta signifie aller à la plage de Kuta et melihat circuit international Mandalika. Melihat circuit international Mandalika signifie regarder le circuit international de Mandalika. Un autre exemple, en plus de sambil, sambil, vous pouvez aussi utiliser la conjonction sembari. Sembari pour relier deux activités réalisées en même temps. Écoutons les phrases qui utilisent la conjonction sembari. Sembari. Saya makan malam sembari menonton televisi. Saya makan malam sembari menonton televisi. Signifie je dîne en regardant la télévision. Kami minum kopi sembari mengobrol. Kami minum kopi sembari mengobrol. Signifie nous buvons du café en discutant. Le circuit international de Mandalika est un circuit de course standard international situé à la zone économique spéciale de Mandalika à Lombok Central, à Nusa Tenggara de l'Ouest. Le circuit accueillera pour la première fois le championnat du monde MotoGP en mars 2022. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Kita akan ke pantai Kuta sambil melihat sirkuit internasional Mandalika.
Oh, sirkuit Mandalika dekat Pantai Kuta.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésie d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Katakan bila harus harus terpisah darimu. Meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena ku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena ku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu, jarak kau dan aku. Percayalah sayang, aku akan pulang.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson keroncong intitulée « Menghapus Jejakmu ». Sur Jemmy, la chanson Menghapus Jejakmu de groupe Noah est sortie pour la première fois en 2007 et s'est sortie une fois répétée en 2022. La chanson Menghapus Jejakmu de Noah a un sens à propos d'un homme qui veut oublier son amant. La différence de caractère et l'incompatibilité de la relation entre les deux font leur relation ne pouvait pas durer. Bon, chers auditeurs, voici Remember Entertainment KR va chanter une chanson crunchon intitulée Menghapus Jejakmu. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.